Bonjour chers auditeurs, je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui, étant donné que le mois dernier, je n'ai pas pu être à mon poste pour raison de santé. Et qu'aujourd'hui, eh bien oui, je suis là, mais néanmoins, c'est un peu différent. On revient au Covid, au bon vieux Covid, n'est-ce pas, avec les méthodes que nous avions utilisées. Ce sera par téléphone, étant donné que ni mon invité Jeremy Stubbs, que vous connaissez, ni moi-même, n'avons pu nous déplacer à cause des raisons météo. Et il faut remarquer d'ailleurs qu'autrefois, dans la France qui marchait bien, c'était pas un flocon qui allait paralyser les transports, mais aujourd'hui, apparemment, eh bien, c'est le cas. Alors donc, je dois avoir en ligne Jeremy Stubbs, qui est directeur adjoint, je crois, chez Causeur, et en même temps, président des Conservatives, des British Conservatives in Paris. Et est-ce que vous êtes là, Jeremy?
Je suis là, Evelyne, et bon. Avec un grand plaisir.
Bonjour, j'ai oublié aussi de vous souhaiter, et je le fais en même temps à Jeremy, je vous souhaite à tous une très bonne année et j'espère que le mois prochain, il n'y aura pas un troisième empêchement pour que je sois en direct au studio. Alors, nous avons beaucoup à faire et beaucoup à dire, étant donné que j'ai appelé cette émission d'aujourd'hui « Le gouvernement islamo-marxiste autoritaire et totalitaire de Keir Starmer ». Et vous avez tous entendu le week-end dernier les exploits de Donald Trump au Venezuela. Et alors moi, j'ai des amis anglais qui m'ont envoyé des petits textos amusants. Ils ne pourraient pas aussi intervenir chez nous parce que nous aussi, on a un dictateur. Et donc, alors c'est peut-être pas à ce point. Mais en tout cas, la situation du pays, quand même, de la liberté, le pays qui a inventé la liberté, qui a inventé le pays de la Magna Carta, c'est pas rien ce qui se passe chez nos amis anglais en ce moment. Alors, je recommande aussi aux auditeurs de lire mon article qui est paru dans le Dreuze d'hier et qui est dans le d'avant-hier, du 5, et dans le 4 vérités d'hier, 6 janvier. Alors, pourquoi une chape de plomb? C'est un petit peu comme le rideau de fer de Churchill. Je pense que le terme n'est pas exagéré. Dans un pays où on l'attendait moins, eh bien, c'est un trotskiste. Alors moi, je fais pas de différence entre les différents marxistes. C'est un marxiste. Il est woke. Il a toutes les qualités de la gauche, c'est-à-dire les anti-qualités de la gauche. Et alors, j'enchaîne tout d'abord sur Trump. Le seul succès de Starmer, c'est le fameux marché commercial de 340 milliards de dollars qui était beaucoup plus avantageux pour l'Angleterre sortie de l'Union européenne que pour l'Union européenne. Mais je ne lui connais pas d'autres succès. Jeremy Stubbs nous dira ce qu'il en est. Je vais dire mon petit laïus et après Jeremy interviendra et répondra aux questions que je soulève. Alors, malgré ce succès donc d'un marché commercial entre les États-Unis et l'Angleterre, sorti du Brexit, je précise, il y a quand même tout un tas de dissensions qui demeurent entre l'allié principal, l'ami américain, et l'Angleterre. Trump a fait savoir dès le mois de mai qu'il n'appréciait pas du tout que la parole soit coupée aux Anglais. Il n'y a plus de « free speech ». Je le répète, au pays de la Magna Carta, il y a d'autres dissensions qui sont l'Ukraine, qui sont l'État palestinien. Starmer fait partie de ceux qui voudraient créer un État palestinien. Il y a la censure sur les sites d'information, non seulement ceux qui disent du bien de Farage, mais sur les sites d'information américains, sur le X d'Elon Musk, sur The American Thinker, que votre servante connaît bien et dans laquelle elle a eu l'honneur d'être parfois publiée, contre Breitbart, qui est une de mes sources principales pour tout ce qui se passe non seulement aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais aussi en Europe. On entend souvent des choses beaucoup plus justes que ce que nous entendons sur nos chaînes. Et donc, il y a aussi la répression quand même féroce et la justice à deux vitesses contre la dissidence anglaise. Alors, surtout, Trump, à force de manœuvre depuis un an et demi que Starmer est là, comme vous le savez, il a dit dans son document sur la sécurité nationale que les Européens, hélas, s'éloignaient du modèle commun de l'OTAN et du modèle adopté par l'Ouest après-guerre. Et de son côté, l'Angleterre de Starmer devient également un très très mauvais allié sur lequel on ne peut pas compter. Jeremy nous dira aussi ce qu'il en pense. Ce n'est pas un allié fiable, pas plus que les alliés de l'Union européenne. Et ma question pour Jeremy, c'est est-ce que, alors j'ai deux questions, cher Jeremy, est-ce que ce marché USA-UK est ce qui maintient jusqu'ici Starmer à flot? Et mon autre question, les manœuvres de Starmer, je viens de parler de la sécurité, mettent en cause l'intégrité des Five Eyes, c'est-à-dire des accords de longue date, depuis qui datent de la Deuxième Guerre mondiale, entre les cinq pays de l'anglosphère, c'est-à-dire États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie et bien entendu Royaume-Uni. Et donc là, il semblerait que ces accords, l'Angleterre n'étant plus un allié fiable, eh bien, il y a des ratés. Alors, Jeremy, je vous demande de répondre, s'il vous plaît. On va essayer de rester sur cette première partie qui est la chape de plomb. On va essayer de rester pas plus de 50 minutes, mais j'ai plein d'autres questions à vous poser juste après vos réponses.
Très bien, très bien. Eh bien, chère Evelyne, je me permets d'abord de détailler la liste des victoires de Keir Starmer.
C'est ironique,
j'ai terminé.
D'accord.
Il est vrai que jusqu'à présent, il ménageait plus ou moins bien Donald Trump, mais même sa petite victoire en termes de accord commercial est très limitée parce que en fait, les États-Unis maintiennent des tarifs hauts dans certains secteurs qui sont très importants et stratégiques pour le Royaume-Uni. Donc, comme par exemple la pharmaceutique. Donc, si vous voulez, l'avantage du Royaume-Uni par rapport à l'Union européenne est assez limité à cet égard. Ensuite, en tant que, comme vous le dites, il y a énormément de choses à dire, mais le Royaume-Uni est-ce que c'est un allié fiable aujourd'hui? Eh bien, comme les autres partenaires européens, le Royaume-Uni sait que aujourd'hui, comme depuis très longtemps, ce sont les États-Unis qui commandent. Donc, on peut se permettre quelques petites critiques ici et là, mais juste pour la forme. Donc, on a eu deux critiques, en quelque sorte. D'abord, à propos du Groenland, Starmer, comme Macron, comme les autres, ont dit « Ouh, ce n'est pas bien si les États-Unis prennent de force le Groenland ». D'accord, bon, ça c'est pour la forme. Ensuite, pour revenir au Five Eyes, cet accord assez informel par lequel ces cinq pays échangent des renseignements. Depuis quelques semaines maintenant, même si on vient de reparler ces jours-ci, mais depuis quelques semaines, le Royaume-Uni, sous Starmer, refuse de partager avec les États-Unis des renseignements concernant le Venezuela.
Voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire.
Voilà. C'est une petite protestation parce qu'à mon avis, ces renseignements étaient extrêmement limités et avaient une valeur minime. Donc, encore une fois, c'est un petit geste de presque du petit doigt pour dire « on proteste, mais pas plus ». Donc, quelle est la valeur de ces petits gestes? C'est surtout pour son parti et, pour tout dire, pour les gauchistes qui en font partie. Donc, Starmer, il sait, comme il y a cette expression en anglais, savoir de quel côté son pain est beurré. C'est-à-dire savoir où sont ses vrais intérêts.
Oui.
Starmer a au moins, sur le plan international, il sait de quel côté le pain est beurré. Donc, il sait que il doit garder les meilleures relations possibles avec les États-Unis, avec Donald Trump, et aussi dans une grande mesure avec ses partenaires européens. Mais il fait ses petits gestes pour plaire à certains militants de son parti. Comme d'ailleurs, vers le printemps 2025, il a cédé à la pression de certains dans son parti en annulant les licences d'exportation de certains producteurs d'armement vers Israël.
Oui.
En réalité, le Royaume-Uni n'exporte pas grand-chose en termes militaires vers Israël. En revanche,
c'est symbolique.
Il en importe énormément. Donc c'était vraiment un geste ridicule.
Mais
oui. Il fait ça pour plaire à, comme vous l'avez dit, ces islamo-marxistes dans son parti. Juste une dernière remarque, Evelyne, avant de passer à votre question suivante. En tant qu'allié, est-ce que le Royaume-Uni est un allié fiable? Eh bien, en termes de bonne volonté, je dirais que oui, mais en termes de moyens, les forces armées britanniques, navales, aériennes, etc., sont dans un état encore plus piteux que celle de la France. Donc, sur le papier, ça marche, mais en réalité, le Royaume-Uni, comme la France, ce ne sont pas, même pas des puissances moyennes aujourd'hui, ce sont des ombres, des fantômes de puissance, et c'est tout.
Inouï.
C'est ça le vrai problème.
Oui. Oui. Merci, Jérémy. J'aurais d'ailleurs une question sur l'armée dans un point ultérieur de l'émission. Je ne manquerai pas de vous la poser. Alors, venons à la dissidence interne devant l'islamisation galopante. Cette dissidence était représentée jusqu'à présent principalement par Tommy Robinson, un personnage que vous n'aimez pas beaucoup, encore que vous semblez avoir évolué un petit peu dans votre détestation de Tommy Robinson, puisque vous avez commis un article que j'ai là sous les yeux le 17 septembre dernier. Alors, curieusement, dans Epoch Times et pas dans Causeur, comment ça se fait ça, que dans votre propre journal, vous n'ayez pas publié cet article?
Au contraire, j'ai publié un long article dans Causeur sur cet effet. Mais Epoch Times, comme c'est souvent le cas, m'ont demandé un entretien sur le phénomène. Et je pense que c'est un phénomène important.
Oui.
Tommy Robinson, le problème de Tommy Robinson, c'est que il est très 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 loin d'appartenir, on peut dire, à l'establishment britannique.
C'est
ce qui fait, on peut dire, ce qui fait son charme.
Son charme, tout à fait.
Il est en train, plus ou moins, petit à petit, de se dédiaboliser un petit peu.
Oui. Justement, je voulais vous engager sur ce terrain-là, parce que vous dites bien dans votre article qu'il a élargi ses doléances, ce n'est plus que l'islamisation galopante, et d'ailleurs, il est le seul pratiquement à se manifester, lui est aussi... quand même les gens du parti Reform, à chaque fois qu'il y a des meurtres au couteau, et c'est fréquent en Angleterre, ça a été mis à la mode par le maire de Londres, Khan le Sadique, comme je l'appelle, Sadique Khan. Et donc, il a élargi son domaine, il a été aussi obligé de parler du manque de liberté de parole au Royaume-Uni, ce qui est quand même inimaginable, du fait que si vous êtes anglais et que vous émettez une critique, ou si vous écrivez une ligne qui ne plaît pas au gouvernement en place, eh bien vous pouvez le poids de la justice s'abat sur vous, tandis que les criminels, surtout s'ils sont d'une origine protégée, comme les Pakistanais par exemple, je dis pas que les Pakistanais font ça, mais enfin la plupart de ces meurtres au couteau en général, c'est pas fait par des Anglais de souche, donc eux sont protégés et la justice ferme les yeux, donc c'est absolument insupportable. Il faut dire que Tommy Robinson a quand même été soutenu récemment aussi par des gens qui ont reconnu que, bon, bah, derrière le voyou, il y avait quand même quelque chose de plus sérieux. Je parle donc de Jordan Peterson, l'intellectuel canadien. Douglas Murray, l'anglais, qui a écrit un livre très intéressant sur justement l'islamisation du Royaume-Uni il y a déjà une dizaine d'années, est soutenu aussi par Elon Musk, qui, je le dis pour nos auditeurs, ça leur plaira d'apprendre cela, qui a quand même payé toutes les factures juridiques de Tommy Robinson. Et ça, c'est pas une petite aide. Donc, Tommy Robinson se trouve justifié, en fait, par des gens qui comptent, et je crois que ça fait la différence. Il a fini par... Et alors, lors de la remise des prix Nobel à Oslo récemment, eh bien, lui, évidemment, il n'a pas reçu de prix Nobel, encore qu'à mon avis, il en mériterait un pour son courage et sa détermination, mais il a tout de même reçu une récompense littéraire pour son livre Manifesto. Et ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, c'est quand même une reconnaissance sur la scène internationale d'un personnage qui était autrefois, il n'y a guère, qui était complètement diabolisé. Alors, justement, en raison de son passé de voyou, il y a encore des gens qui sont, et puis aussi du fait qu'ils parlent, même si c'est aussi un intellectuel, son parler en revanche reste très working class. Et donc il y a des gens, pédants, qui ne supporte pas le personnage. Mais alors moi, je vous pose la question, n'y a-t-il pas de rédemption possible pour Robinson? Mais je veux dire, carrément possible cette fois-ci. Est-ce qu'il ne peut pas? Est-ce que quand même son courage, sa détermination, son patriotisme et sa popularité et populisme, ça va ensemble, là. Quand même, est-ce que ça finit pas par trouver grâce aux yeux des plus réticents?
C'est une question qui restera suspendue. Mon reproche à Tommy Robinson, c'était sur sa stratégie, pas sur son personnage, parce que, pour tout raconter très brièvement, il avait accusé un jeune homme d'avoir fait quelque chose dans une école. On lui a intenté un procès, il a perdu le procès, et il devait enlever de son site une vidéo. Il a refusé de le faire. Et pour moi, ça, c'était, essayer de continuer une bataille qui était déjà perdue au lieu de passer à une nouvelle bataille. Et en fait, en 2025, il a choisi de passer à une nouvelle bataille. Et donc, ça a libéré, en quelque sorte, une certaine énergie. Et il a organisé cette grande manifestation au nom du drapeau à Londres en septembre, qui a été une très grande réussite, qui a attiré beaucoup de monde, qui a montré une grande solidarité dans le peuple britannique, où on a essayé d'accuser les manifestants de violence, mais en fait, les violences commises étaient commise par les contre-manifestants de
comme
gauche.
Comme toujours. C'est la gauche qui est violente.
Et donc, ça, c'était, j'ai appelé ça un coup de maître.
Un coup de maître.
La question, c'est qu'est-ce qui se passe ensuite? Soit il regroupe ses forces et il prépare quelque chose de nouveau en 2026, soit il gardait l'élan en faisant coup sur coup. Apparemment, d'après ce que je vois, il a choisi plutôt de garder sa poudre maintenant pour quelque chose en 2026. Mais il a fait quand même une autre transition qui est qu'il est devenu très chrétien. Autrefois, il s'opposait à l'islam. Comme beaucoup d'autres d'ailleurs, dans la mesure où l'islam se transformait en islamisme trop souvent.
Oui.
Aujourd'hui, son combat se double maintenant d'une... Et d'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus dans Causa le mois dernier, et d'ailleurs, c'est le sujet du livre le plus récent d'Éric Zemmour, « Un sursaut judéo-chrétien ». Donc, Tommy Robinson, il a rejoint, si vous voulez, le mouvement du sursaut judéo-chrétien. Ce qui est, encore une fois, à mon avis, une bonne nouvelle. Bien sûr, ses détracteurs disent « Oh, mais c'est de l'hypocrisie, il n'est pas vraiment chrétien. » Ça, c'est un peu trop facile.
Culturellement, en tout cas. Trop
facile.
Oui, oui.
Oui, allez-y.
Oui, moi, je le vois, moi, je lui pardonne son passé et je le vois comme un guerrier culturel. Comme vous le savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La guerre culturelle ». Je parle un petit peu de lui dedans. Et c'est la raison pour laquelle j'aime tellement Trump, c'est la raison pour laquelle je pardonne tout à Tommy Robinson. Pour moi, la qualité première, c'est d'être guerrier culturel, c'est-à-dire de refouler toutes ces horreurs qui nous ont été imposées depuis quelques décennies, et notamment le wokisme en Angleterre dont nous allons parler tout à l'heure. Et donc, c'est un guerrier culturel, et à ce titre, eh bien, il a droit à notre admiration et à notre soutien. Alors, je pense que sur Tommy Robinson, nous avons fait le tour. Je voudrais maintenant que nous revenions au totalitarisme de Starmer. Alors, vous diriez, déjà, Jérémy, vous diriez totalitaire ou autoritaire, parce que la frontière est ténue entre les deux. Alors, à l'époque de Madame Jean Kirkpatrick, qui faisait partie de l'administration Reagan, elle avait fait la distinction totalitaire, c'est véritablement le dictateur qui tue, bon, genre Maduro, qui n'a aucun respect pour la vie humaine, etc. Et donc autoritaire, ça serait un tout petit peu plus convenable ou un peu moins horrible. Alors évidemment, Starmer, théoriquement, on devrait dire qu'il est autoritaire. Néanmoins, il y a quand même des facettes chez lui de totalitarisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Je pense qu'on va dans cette direction, mais curieusement, il est difficile de voir Starmer lui-même comme autoritaire. Pourquoi? Parce que j'ai sa caractéristique première, c'est la faiblesse. Tout le monde le dit, il n'arrête pas de changer d'avis, il est facilement influencé par des autres. Il va dans une direction, il fait demi-tour, il va dans l'autre, ensuite il s'arrête au milieu. Si vous voulez, les forces totalitaires viennent d'ailleurs, viennent de cette culture de la gauche islamo-marxiste, comme vous le dites si bien. Les forces viennent de ça, et lui, il n'arrive pas à les endiguer, et quand ça semble l'arranger, il abonde dans leur sens. Donc, si vous voulez, le problème du Royaume-Uni, ce n'est pas que le chef du gouvernement soit autoritaire dans l'âme, c'est plutôt qu'il est faible face à ses autres forces.
Oui, enfin, il est faible devant les puissants et devant l'électorat musulman au Royaume-Uni, mais il est très très fort contre le citoyen britannique ordinaire qui n'a pas les moyens de se défendre.
Oui, ou plutôt, il est faible contre ces forces-là qui voudraient mater ce citoyen. Et c'est ça tout le problème. Je vous donnerai un exemple.
C'est la préférence étrangère.
Voilà, je vous donnerai un exemple qui, dont tout le monde parle en ce moment, outre-Manche. C'est celui du match de football Aston Villa contre le club israélien Maccabi Tel Aviv. Ce match a eu lieu au mois de novembre à Birmingham, qui est la deuxième ville du Royaume-Uni, un grand centre d'immigration.
Avec un maire musulman.
Absolument. Et le problème là, c'est que la police locale a décidé d'interdire la présence de fans israélien au match. Et depuis, on a découvert que les informations et les renseignements utilisés par la force de police étaient complètement bidons. Ils avaient utilisé l'intelligence artificielle qui a gratté quelques fausses informations. Ils ont traversé le rapport que leur avait envoyé la police d'Amsterdam après un autre match l'année dernière. impliquant le club israélien. Tout était faux. Tout était fait uniquement pour plaire à un électorat local. Alors, il faut savoir que la police est décentralisée au Royaume-Uni. Il y a des forces de police régionales et ces forces de police ont une certaine autonomie opérationnelle, ce qui pourrait étonner un Français.
Oui.
Donc, le ministre de l'Intérieur ne peut pas donner un ordre à une force de police.
Je ne savais pas ça. Mmh.
Oui, c'est ce qui est étonnant et c'est ce qui explique le fait que l'ancienne ministre de l'Intérieur, conservatrice, à l'époque, c'est elle qui a appelé ça les marches de la haine après le 7 octobre, elle n'a pas pu interdire ces grandes manifestations parce que la police londonienne ne voulait pas les interdire.
Oui.
Donc vous voyez, il y a cette particularité au Royaume-Uni. Eh bien, on a appelé les chefs de la police régionale au Parlement pour s'expliquer. Et là, le poteau rose, si on peut dire, a été révélé. Toute la fausseté de leur déclaration à l'époque du match, ils ont tout dit. Ils ont dit « Ah, ce sont les Israéliens, sont violents, on ne peut pas les accepter à Birmingham ». En fait, ils craignaient la violence de la part des islamistes locaux.
Bien sûr, c'est l'inversion typique des récits de la gauche. Ils inversent
absolument.
Tout, le vocabulaire, les réalités, les faits, c'est une inversion constante de tout ce qui se passe.
À l'époque, et je reviens à Starmer, à l'époque, Starmer avait dit « Ah non, il faut accueillir les fans israéliens ». Donc, il était sur la bonne piste. À la fin, c'est le club israélien, Maccabi Tel Aviv, qui a décidé de ne pas envoyer ses propres fans. Parce que l'atmosphère était toxique, c'était sa décision.
Oui.
Mais vous voyez, Starmer avait quelque part le bon instinct, il a une idée de ce qui est juste, mais il n'a pas pu l'imposer, il n'a pas la force. Et reste à savoir si le gouvernement va vraiment punir ces chefs de la police locale qui ont menti. On en est là.
Je gagerais qu'il n'en fera rien.
Oui,
ils n'en font
moi
rien.
Aussi. Moi aussi.
Alors, je voudrais que non seulement nous retournions au totalitarisme, autoritarisme de Starmer en action. Comme nos auditeurs le savent sans doute, c'est un marxiste, un marxiste trotskiste. Il ne faut pas croire que Trotsky c'est mieux que Lénine, pas du tout. Trotsky était également un être. Trotsky avait commis des actes sanglants avant d'être expulsé de se fâcher avec Staline et d'être expulsé de Russie. Donc il valait pas mieux. Mais bon, il y a beaucoup d'intellectuels de gauche qui se réclament du trotskisme. Oh là là, ce que c'est bien. Ça n'a pas été tenté, songez donc. Donc c'est un Trotsky, c'est un idéologue. Il est d'accord avec le soi-disant droit international. Qui n'est pas un véritable droit, qui est un droit qui est en fait le droit de l'ONU, qui voudrait passer par-dessus la souveraineté des États. Et alors il a choisi autour de lui des ministres à son image. Et alors il y en a quelques-uns qui me plaisent particulièrement, Jérémy. Alors il y a cette dame, Madame Shabana Mahmoud, ça ne s'invente pas, c'est son nom, c'est le ministre devrait dire, je ne vais pas parler woke à mon tour, c'est le ministre, toute femme qu'elle soit, de l'immigration, parce qu'elle est le ministre de l'Intérieur. Donc elle dit, oh là là, oui, on va freiner l'immigration illégale, attendez, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais elle prône, l'immigration légale. Or, c'est une parade, puisqu'on sait très très bien que c'est extrêmement facile pour eux de légaliser à tour de bras les illégaux, et d'autre part, l'immigration légale est déjà trop importante elle-même, puis énorme à vrai dire, puisqu'elle est dévoreuse de subventions de l'État-providence, et qu'elle fait ployer le pauvre NHS, le système de santé. Donc c'est un véritable piège. Et puis alors il y en a un autre, je vous dis les trois qui me plaisent particulièrement, puis après vous interviendrez, Jérémy. Il y en a un autre qui me plaît beaucoup aussi, c'est son chef du personnel. Alors lui, Morgan McSweeney, il dirige une campagne plus ou moins secrète, moi je dirais que c'est pas secret du tout, de censure. Alors, là encore, absolument parallèle avec l'Union européenne, dont je rappelle que l'Angleterre devrait être bel et bien sortie, mais qu'elle ne l'est toujours pas complètement. Donc, il y a un organisme qui est le pendant de l'organisme européen. En Europe, nous, c'est le Stop Funding Fake News. Ce sont des titres orwelliens, n'est-ce pas ? C'est-à-dire arrêter de financer les fausses nouvelles. Bon, c'est la gauche qui dit ça. La gauche qui, elle, fabrique des narratifs absolument faux, comme je le disais tout à l'heure, en aversion totale, jusque dans le vocabulaire, en aversion totale aux réalités. Et donc ça, c'est parallèle avec l'organisme anglais de censure qui est le Online Safety Act, c'est-à-dire, encore un nom orwellien, c'est-à-dire le contraire de la réalité, loi de sécurité pour l'Internet, donc pour les messages en ligne. Voilà. Bon, donc c'est exactement le contraire que ces gens font. Et Starmer, lui, bah, il a un ministre qui s'occupe activement de tout cela. Alors, en plus, vous allez nous en parler peut-être, Jérémy, est apparu en Angleterre, alors là, un temps d'avance sur l'Union européenne, mais c'est ce qui nous attend, hein, reconnaissance faciale à la chinoise, vous savez, les fameux crédits. Et puis donc, suppression de la liberté de parole, on en a parlé. Et alors, il y a justement, comme l'Angleterre est très très woke, alors que Trump déwokise les États-Unis du mieux qu'il peut, Starmer lui en remet une couche. Et alors, il y a quand même des généraux britanniques 4 étoiles, je n'ai pas leur nom ici, mais peu importe, qui mettent en garde contre la militarisation de la justice, la fameuse justice à deux vitesses, qui est menée par des avocats spécialistes des droits de l'homme, les droits de l'homme de l'ONU, vous savez. Starmer était lui-même, avant d'être à sa fonction actuelle, était lui-même, enfin d'origine, il est ce genre d'avocat, voilà, spécialisé dans les droits de l'homme. Le genre d'avocat qui plaidait pro bono, c'est-à-dire sans rien demander, pour les criminels de Abu Ghraib ou bien alors les détenus de Guantanamo. Donc, alors, ces généraux disent, voilà, à force, tout ceci mine notre sécurité nationale et provoque des démissions en masse dans les forces spéciales britanniques. Or, on sait l'excellence passée des forces spéciales britanniques. Ça rejoint, oui, Jérémy, ce que vous disiez sur l'affaiblissement aberrant, oui, du militaire en Grande-Bretagne. Et enfin, alors justement, il y a Robert Jenrick, dont je ne peux pas comprendre qu'il ne soit pas, parce qu'en fait, il est de fait, sinon en droit, il est le véritable premier ministre d'un gouvernement de l'ombre, le shadow prime minister. C'est lui qui dit des bonnes choses, c'est lui qui dit des choses intéressantes, c'est lui qui se fait remarquer. Ce n'est pas la triste Kemi Badenoch, qui, je le répète, est un choix identitaire malheureux. Donc, Robert Jenrick conclut là-dessus en disant « Le militantisme judiciaire est tout simplement un poids pour nos opérations, enfin, effectiveness pour, aidez-moi, pour le bon déroulement de nos opérations. » Voilà, donc c'est grave. Et j'en arrive à mon dernier ministre, alors, absolument préféré d'entre tous, de Starmer, c'est le sieur David Lammy. Alors celui-là, n'est-ce pas, britannique pur jus, bien sûr, hein, ses parents étaient guyanais, mais lui, attention, il est né au Royaume-Uni, donc il est plus anglais que vous, Jérémy. Et alors, à ce titre, alors il a d'abord été ministre des Affaires étrangères, calamiteux, accumulant gaffe sur gaffe. Faut quand même pas oublier qu'il avait organisé une aide électorale à Kamala Harris. Faut le faire avant les élections américaines de l'an dernier, de 2024. C'est quand même incroyable comme ingérence dans les affaires d'un autre pays. Et puis, il a aussi dit tout le mal qu'il pouvait de Trump, candidat, et il a un tout petit peu arrêté quand Trump a été réélu. Bon, ça c'est une chose. Et alors voici maintenant que, ayant sévi et s'étant illustré au ministère des Affaires étrangères, Starmer n'a pas voulu s'en séparer, il le trouve trop précieux, il l'a mis maintenant à la justice. Alors, c'est inouï ce qui se passe. Il vient de décider, lui, Guyanais d'origine, il vient de décider contre la Magna Carta, contre les barons qui avaient obtenu tout ce que l'on sait de Jean Santerre, eh bien, il vient d'obtenir l'abolissement des tribunaux avec jury. Dites-nous un mot là-dessus, s'il vous plaît, Jérémy, et j'aurai d'autres questions après.
Eh bien, permettez-moi juste de dire un mot d'abord, chère Evelyne, sur Madame Mahmoud. Parce que je suis d'un autre avis que vous sur elle. Uh-huh. Elle est musulmane, il faut dire, elle est musulmane.
Eh oui, mais bien sûr.
Et elle est ministre de l'Intérieur. Et pourtant, elle est de tous les travaillistes, elle est la plus sévère sur l'immigration illégale. Et oui. C'est pour ça qu'elle... C'est la même technique qu'on a vue en France, c'est-à-dire qu'un gouvernement, entre guillemets, modéré, nomme au poste de ministre de l'Intérieur tel que chien d'attaque qui est vraiment très sévère sur l'ordre public, très strict sur l'immigration illégale. Et ensuite... Le gouvernement empêche ce ministre d'agir. C'est ce qu'on a fait, à mon avis, avec Darmanin en France, c'est ce qu'on a fait avec Retailleau en France, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec... c'est ce qu'a fait, d'ailleurs, le gouvernement conservateur avec Suella Braverman.
Oui, mais on voit avec quel résultat, voilà. Tout ça ne marche
et
pas.
Maintenant, c'est la même chose avec Madame Mahmoud. Et la vérité, c'est que il y aurait une solution au problème de la Manche et de l'immigration illégale, mais Starmer ne veut pas chercher la vraie solution.
C'est pour ça que je vous disais que c'est une parade quand elle dit non, on va favoriser l'immigration légale. Attention,
oui,
non, pas illégale.
Il faut être clair là, l'immigration légale, qui reste, à mon avis, toujours trop haute, mais l'immigration légale est en déclin. Surtout grâce aux dernières mesures prises par le dernier gouvernement conservateur. Mais ce qui inquiète la population surtout, c'est le spectacle de ce qui arrive d'abord sur les plages de Douvres et ensuite dans tous ces hôtels et autres installations ici et là au Royaume-Uni. C'est là où est le vrai scandale. Et pour enchaîner sur ce que vous disiez de David Lamy, oui, absolument, c'était un ministre des Affaires étrangères absolument pas convaincant, qui n'avait il n'avait pas la carrure. Il faut mettre quelqu'un qui ait la carrure un peu d'un homme d'État, d'une femme d'État.
Oui, mais c'était également un choix identitaire de la part de Starmer, vous ne pouvez
bien
pas
sûr,
le
bien
nier.
Sûr, bien sûr,
bien sûr. Et alors,
à mon avis, sa présence est purement identitaire.
Est-ce que détestable, je voulais simplement dire ceci, je vous laisse terminer votre développement après, parce que j'ai peur de l'oublier, mais il faut que les auditeurs le sachent. Si j'aborde ce personnage, c'est pas à cause de sa couleur et même de ses gaffes, c'est aussi pour son action, mais c'est parce qu'il traîne avec lui, et ça c'est son bagage guyanais, il traîne avec lui toute la rancœur du quart monde, je peux dire, instillé par des gens comme Zin, Chomsky et Saïd, dont je parle dans mon livre. Et ça est relayé par les membres du monde académique partout, aux États-Unis, en Angleterre, en France, à la Sorbonne, à Sciences Po, partout. C'est incroyable.
C'est là où je ferai un contraste entre lui et le leader conservateur Camille Badenoch. Elle aussi, personne de couleur qui, d'ailleurs, est née à l'étranger. Elle a fait son éducation au Royaume-Uni et elle a réussi tous ses diplômes. Elle a une capacité intellectuelle. David Lamy...
On n'a pas remarqué grand-chose jusqu'ici. On va parler du Parti conservateur et d'elle tout à l'heure.
Oui, on va le dire, mais en dépit de votre scepticisme, chère Evelyne, le Parti conservateur vient de monter dans les sondages.
Ah, pendant qu'il était tombé tellement bas. Je suis méchante.
On fait des progrès. On fait des progrès. C'est un premier bon signe. Bon, Attendons pour voir. Mais il y a une petite lueur d'espoir qui arrive. Mais pour revenir à David Lamy...
J'ai une autre question sur lui à vous poser.
Voilà, mais je parlais de David Lamy et ensuite des forces spéciales que vous avez soulevées tout à fait de manière appropriée. David Lamy, donc, c'est quelqu'un qui est là parce que, non pas parce qu'il a toutes les capacités intellectuelles auxquelles on peut s'attendre de la part d'un ministre d'État, mais parce qu'il dit ce qu'il faut dire sur le plan idéologique. Mais c'est pas un génie, c'est ça le problème. Maintenant, il est ministre de la Justice. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, oui, on parle d'abolir. Je ne sais pas si c'est censé être temporaire ou de manière permanente. Les jurys dans les procès. Par exemple, toutes ces personnes qu'on a condamnées récemment en France, Nicolas Sarkozy, Gérard Depardieu, je ne parle pas du fait de est-ce qu'ils sont coupables ou non, je n'en parle pas, mais au Royaume-Uni, il faudrait que des personnes comme ça soient condamnées par un jury de 12 de leurs concitoyens. C'est ça la justice, c'est depuis la Grande Charte, depuis des siècles. Et la raison pour laquelle on parle au moins de laisser tomber cet aspect de la tradition juridique britannique, c'est parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de procès en attente. On n'arrive pas
Ça, c'est le prétexte qui est donné pour gagner du temps, pour arriver à liquider. On peut toujours trouver des prétextes.
Il y a une réalité. En même temps, est-ce que cette réalité justifie une telle mesure? À mon avis, non.
Non.
Absolument
pas. Et en plus, il y a le risque que ça demeure, que ça s'installe et qu'on ne revienne pas.
Bien sûr. Alors, c'est ça le problème. Mais on n'a pas fini là parce que, si vous voulez, il faut là... prendre du recul et voir l'état du système de justice au Royaume-Uni et le système des prisons. Parce que tout ça, encore une fois, c'est dans un état encore plus calamiteux, si possible, qu'en France. C'est ça, la réalité. C'est ça, la réalité. Donc, les tribunaux n'arrivent même pas à gérer la charge de travail. Les prisons sont totalement bondé de prisonniers. À l'intérieur des prisons, qui est-ce qui fait la loi? Eh bien, ce ne sont plus, comme on disait autrefois, les gardes chiourmes, ce ne sont pas le personnel des prisons, sont les islamistes. Parce qu'on a beaucoup réduit le nombre et les qualifications des gardiens de prison. Une société, il y a un baromètre pour la santé d'une société, un baromètre, je pense, surprenant, c'est l'état des prisons et l'état du personnel. Si on a un personnel de gardien de prison bien formé, bien rémunéré, bien respecté par la société, eh bien, il y a des chances pour que tout se passe bien. Mais dans l'état actuel des choses, c'est catastrophique. Et là, je reviens encore une fois, chère Evelyne, à des événements récents. Il y a eu des...
Alors, assez rapidement, parce que j'ai plein d'autres questions.
Mais ça, c'est important. Des prisonniers qui, sous le régime de David Lamy, se sont évadés de prison. Il y en a même deux qui se sont évadés le premier de l'an et qui sont toujours quelque part dans la nature.
Bien sûr.
C'est-à-dire, on quitte une prison britannique aujourd'hui comme on quitterait une grange à la campagne.
Bien sûr.
L'État est vraiment calamiteux. Voilà.
Alors, vous comprenez quand même, Jérémy, que si abominable que soit Starmer et ses ministres, ils ne sont pas directement responsables de l'état des prisons en Angleterre. le problème est plus ancien. Non. Et là, maintenant, ils prennent le problème par l'envers, c'est-à-dire, bon, ben, comme on ne peut rien faire pour les prisons, on va taper, c'est la justice qui va s'adapter. Ben, moi, je suis désolée, c'est franchement prendre le problème à l'envers. Donc, la solution, ça serait de créer dardard des prisons et de faire enrôler du personnel justement contre les... C'est ce wokisme qui dissuade les jeunes de s'enrôler pour devenir gardien, comme pour devenir membre des services de l'armée et de l'information. C'est le même problème à la base. Alors, je voudrais...
Juste un petit mot pour revenir à ce que vous disiez au début sur la liberté d'expression, parce que c'est important. Si on n'emprisonnait pas des citoyens britanniques pour...
Ben oui, il y aurait de la place.
Il y aurait de la place pour de vrais criminels, des violeurs, des migrants violeurs.
C'est incroyable. C'est le monde à l'envers. La gauche, c'est le monde à l'envers. C'est une abomination. Alors, il y a une dernière chose quand même. Ah oui.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, cher Jérémy, avant que nous parlions du wokisme aggravé sous Starmer, il y a une dernière chose qui est liée aussi à mon ministre préféré, David Lamy, qui est chargé maintenant par son maître Starmer d'accélérer les choses. Il faut savoir que les deux compères veulent revenir de toute manière à l'Union européenne. Alors c'est par des moyens à peine détournés. Là ce matin il y avait un papier de Breitbart qui explique que Farage prévient de la trahison au Brexit qui est en cours. Starmer cherche à réaligner le marché de l'énergie à l'Union européenne. Et donc, alors que même Blair dans son think tank a reconnu il y a quelque temps que le net zéro était absolument irréaliste, en tout cas pour 2030. Oui. Et bien, malgré cela, des gens de gauche, mais qui ont un petit peu de plomb dans la tête, malgré ça, Starmer et son cher Lamy veulent, eux, dardard, revenir dans l'Union européenne, qui est folle alliée, je le répète. Et donc, le groupe de Bruges, je tenais à parler d'eux, parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup, et je ne comprends pas que vous autres conservateurs, vous ne fassiez pas davantage de choses avec eux, parce que certes, ils ont été brexiteurs, moi je les ai beaucoup fréquentés, mais ce sont aussi des véritables conservateurs. Ils ont invité d'ailleurs en septembre, mais je n'ai pas pu y aller, ils ont invité Robert Jenrick's, et des véritables conservateurs, et je pense que vous auriez besoin de tous les alliés possibles. Alors le groupe de Bruges, je tiens à le faire connaître à mes auditeurs, vient de publier, c'est son dernier livre, les 75 bénéfices du Brexit, the 75 Brexit benefits, hein, c'est le même terme en anglais. Bon, les bonnes raisons. Bon, alors ce sont pas des gros bénéfices, bien entendu, puisque le Brexit a en fait juste été acté, mais n'a jamais été véritablement mis en vigueur, pas plus par le personnel conservateur quand il le pouvait. Johnson nous a trahis. Et puis maintenant, évidemment, il n'y a aucune chance avec Starmer et Lamy qui font tout pour revenir dans le sein de... Alors, c'est Doreen, comment elle s'appelle ? Nadine Doris, qui dit, voilà, ils veulent à tout prix nous faire rentrer dans cette saloperie de machin. Et elle a tout à fait raison. Et elle a donc laissé les conservateurs pour aller chez Farage. Alors, ce groupe de Bruges, il publie plein de choses intéressantes. Il a également dénoncé le mensonge climatique dans plusieurs livres. Et j'engage vraiment les... Vous faites Bruges Group de Bruges sur votre ordinateur et vous trouverez tout ce qu'ils ont fait paraître. Et franchement, c'est des gens très intéressants à fréquenter. Alors, le ministre Lamy, donc, pour résumer, est plein de déférence vis-à-vis de la Cour européenne des droits de l'homme, ça c'est aussi le groupe de Bruges qui nous le dit, alors qu'il fait fi, donc il fait un affront à la Grande Charte. C'est incroyable, c'est le monde à l'envers. Donc là, j'ai parlé donc du groupe de Bruges comme je voulais. Pourquoi est-ce que donc, une toute petite question, pourquoi est-ce que vous ne les fréquentez pas davantage? Et après, j'ai une autre question. Combien de temps les Britanniques vont-ils supporter cette chape de plomb?
Je pense que les conservateurs actuels sont déjà sur cette ligne. D'ailleurs, la politique aujourd'hui du Parti conservateur, c'est de quitter la Cour européenne des droits de l'homme.
Oui, ça va pas. J'arrive pas à comprendre d'ailleurs comment ça se fait que depuis quand même maintenant, ça va faire 6 ans, que depuis 6 ans, on soit encore, les Anglais soient encore soumis à cette Cour européenne qui est un affront aux souverainetés nationales.
Oui, mais ça, c'est pas une institution faisant partie de l'Union européenne. Donc, c'est à part et il y a toujours des nostalgiques qui se souviennent de l'époque où le Royaume-Uni a joué un rôle important dans la création de cette cour qui a fait une dérive terrible loin des principes d'origine vers, comme vous le dites, Evelyne, vers le wokisme.
Justement, je voudrais qu'on arrive au wokisme maintenant.
Ben, juste un mot, parce que vous l'avez soulevé, oui. La question de l'Union européenne. Il est vrai que le pauvre Johnson, au moment où il négocie la sortie de l'Union européenne, arrive le Covid et ensuite la guerre ukrainienne.
Oui, enfin, il a trouvé le temps quand même de s'occuper des questions du climat. Hein. Il était enragé pour...
Il était sous l'influence de sa femme, donc il était très pour. Mais depuis, les autres conservateurs, pas du tout. Donc tout le monde, tous ceux qui sont censés sont d'accord que le net zero, c'est pas réaliste, c'est même un très négatif.
Carrément inutile. Nous en parlerons avec le professeur Furfari en avril.
Même beaucoup de travaillistes voudraient abandonner ou au moins mitiger l'objectif. Mais concernant l'Union européenne, il est vrai que sous Starmer, il y a un très grand risque en ce moment de revenir au sein de l'Union européenne sans même avoir les avantages, les quelques avantages que le Royaume-Uni avait quand il était membre. C'est-à-dire qu'on sera obligé d'accepter les normes européennes sans pouvoir en discuter, sans pouvoir en négocier. Et parce qu'à l'état actuel, le Royaume-Uni peut suivre les normes européennes dans tel ou tel domaine. Si ça l'arrange, c'est un choix. Tout le monde peut copier les normes de quelqu'un d'autre si ça aide à exporter. On a le choix. Ce que propose Starmer, c'est de nous enlever le choix dans beaucoup de domaines. Et ça, c'est encore une fois, c'est catastrophique. Oui, tout à fait. Donc là, on voit aussi que ma liste des victoires de Starmer, elle est plus que courte.
Oui, tout à fait. Alors, arrivons au wokisme, je dirais aggravé, maintenu et aggravé par Starmer et son équipe. Alors, vous avez tous entendu parler, chers auditeurs, et évidemment vous aussi, Jérémy, de ce qui s'est passé au sein de l'Église d'Angleterre dans l'automne dernier. Cette exposition révoltante à la cathédrale de Canterbury, voulue par le doyen David Monteith, fièrement et ouvertement gay et lui-même militant pour la cause des gays et lesbiens. C'était une exposition pornographique qui consistait en des graffitis, certains très très crus, visant, alors c'était le noble but était d'établir des partenariats entre les cultures. Quelle culture ? Il fallait comprendre féminisme, gay, trans, immigré, etc. En fait, c'était identitaire. Et alors, au sein de l'Église d'Angleterre, le 6e archevêque de Canterbury, faudrait-il dire la archevêque, c'est en fait une femme, Dame Sarah Mullally, c'est ça son nom, Sarah Mullally, première femme archevêque, s'il vous plaît, qui se dit, chrétienne donc, mais ouvertement pro-choice, c'est-à-dire pour l'avortement si vous le désirez, sans restriction, sans condition. Et donc, on a vu cette horreur d'exposition dans une cathédrale quand même, fondée au VIe siècle, et qui depuis Henri VIII est le haut lieu de l'Église d'Angleterre, si je ne m'abuse. C'est bien cela, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Alors
oui.
C'est une insulte à Thomas Becket, c'est une insulte au peuple britannique, c'est une insulte à tous ceux qui font partie de l'Église d'Angleterre. Et alors moi, je me pose une question, et je vous la pose aussi, Jérémy. Oui. Que fait le roi Charles ? Est-ce que ce n'est pas un roi complaisant ? Parce qu'après tout, dans son allocution de Noël, il a été, je dois dire, extrêmement falot, terne. La seule chose qu'il y avait d'intéressante, c'était le chœur ukrainien qui a chanté un superbe chant de Noël et qui a réveillé tout le monde. Mais lui, il n'a jamais parlé de ce que souffre une partie de la population britannique. Il n'a jamais parlé, bien entendu, de l'islamisation de son pays. Il n'a jamais parlé. Et alors, on sait qu'il a dépouillé son frère Andrew, peut-être avec quelques raisons. Mais tout de même, son frère Andrew se trouve désanobli, tandis que Sadiq Khan, lui, a été anobli. Bon, il n'y a pas un malaise, là. Ce n'est pas un roi complaisant, ce n'est pas un roi qui se plie au wokisme. Enfin, il est quand même chef de l'Église d'Angleterre.
Comment est-ce qu'il peut supporter ça ? La plupart des choses que vous évoquez, le roi n'a strictement aucun pouvoir là-dessus.
Oui.
C'est peut-être la tragédie, mais...
Revenons au début,
il y a eu cette exposition dans la cathédrale de Canterbury, qui est justement le siège central de l'Église d'Angleterre.
Alors, quand même, en tant que chef de l'Église d'Angleterre, il n'avait pas qu'un mot à dire, là ?
Non, il est même interdit de dire quoi que ce soit là-dessus. Et donc là, l'exposition, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, il y a quelques artistes dont j'oublie le nom, quelques artistes contemporains.
Artistes, vous êtes généreux.
Oui, tout à fait, mais il y avait quand même des guillemets quand j'ai prononcé le mot. Cet artiste, il ou elle, a interviewé des migrants et des immigrés et a pris des phrases prononcées par ces personnes dont la plupart a été adressée à Dieu, si j'ai bien compris. Et donc, ces phrases ont été peintes, non pas de manière permanente, heureusement, sur les colonnes, les murs de la cathédrale pour faire une sorte d'exposition. Mmh. Et là, vous avez tout à fait raison, ça date d'il y a quelques mois, nous avons publié un petit article là-dessus dans Causeur, bien sûr. C'est représentatif de l'état de l'Église d'Angleterre. L'Église d'Angleterre est devenue une sorte d'église wokiste, on peut le dire.
J'en parle très longuement du reste dans mon livre parce que c'est véritablement une tragédie, comme vous disiez.
Tout à fait, c'est une tragédie. Dieu n'est plus présent dans cette église, c'est l'idéologie wokiste.
Voilà. Tout à fait.
Il reste des poches traditionnelles. Il y en a plein d'ailleurs, mais c'est comme un peu des résistants. Si jamais vous êtes à Londres, je vous conseille d'aller à l'église de Tous les Saints, All Saints, St. Margaret Street, la rue de Sainte-Marguerite à Londres. Là, il y a un bijou d'architecture avec des offices qui se font de la manière traditionnelle, parfait. Là, il n'y a pas de wokisme. Donc, il existe
le nom, ça, c'est
Sainte-Margaret. All Saints, St. Margaret Street.
D'accord.
Juste au nord de Oxford Street.
Okay.
Il y a plein d'endroits comme ça où on peut retrouver l'Église d'Angleterre qu'on aimait autrefois, qu'on aime toujours.
J'imagine dans les villages aussi.
Voilà. Mais la hiérarchie aujourd'hui est dominée par le wokisme et comment dire.
J'arrive quand même pas à comprendre comment, en tant que chef de l'Église d'Angleterre, le roi Charles ne peut pas au moins faire un commentaire.
Non, surtout pas de commentaire.
Alors il est
surtout pas de commentaire. Et le problème, si vous voulez, c'est que, bon, cette nouvelle archevêque, c'est peut-être une dame très bien, j'en sais rien, à vrai dire. Le problème, c'est que en mettant une femme à la tête de l'Église, c'est tout un symbole. Parce que l'Église d'Angleterre, il faut être précis sur les termes, l'Église d'Angleterre fait partie, c'est une Église parmi d'autres qui font partie de ce qu'on appelle la communion anglicane. Donc l'Église anglicane, c'est une entité, c'est une sorte de fédération d'Églises plus large. L'Église d'Angleterre en fait partie. Le problème, c'est que où sont les centres de dynamisme chrétien aujourd'hui? C'est beaucoup plus en Afrique qu'au Royaume-Uni. Et en Afrique, ils sont beaucoup plus conservateurs
tout à fait
qu'au Royaume-Uni. Et donc, ils voient d'un mauvais œil tous ces développements. Donc, il y a une menace.
Moi, j'aurais d'ailleurs voulu que ce soit le cardinal Sarah qui soit pape, mais bon, c'est râpé. Nous avons un autre pape communiste.
Mais bon. Si vous voulez, pour revenir au roi Charles, il n'a pas son mot à dire, mais il a fait des gestes extrêmement significatifs récemment. Extrêmement
significatifs. Dites-nous lesquels.
Il est allé à Rome, dans la chapelle Sixtine, prier avec le pape. Bon, on peut dire ce qu'on veut du pape actuel. Mais cette idée, la première fois qu'un roi anglais, britannique, prie avec le pape, ça, c'est un geste très, très fort.
Il pourrait peut-être annuler ce que son ancêtre Henri VIII a fait et revenir au giron de l'Église, non?
Là aussi, il n'en a pas le pouvoir. Mais, pour revenir à son discours de Noël, que personnellement, j'ai trouvé très bien.
C'est exactement dans les règles de l'art.
Et pour la première fois, il n'était pas dans un bureau au château de Windsor. Il était à l'abbaye de Westminster. Il était dans une église, autrement dit.
Un symbole.
D'ailleurs, lors de la cérémonie de l'Avent, il a invité à cette cérémonie des représentants des autres églises chrétiennes, orthodoxes, catholiques, les autres protestants plus farfelus, si je puis dire, à être présents. Et il a fait un appel au nom des chrétiens d'Orient, qui sont bien sûr menacés. Donc, il y a ça aussi. Le roi Charles, il est chrétien dans son âme. On l'a accusé d'être musulman. Bon, il n'est pas musulman.
Non, absolument pas.
C'est un vrai chrétien, comme sa mère. Mm-hmm. Et il sent que ça se passe mal, donc il essaie de faire quelque chose symboliquement dans la mesure du possible.
Vous êtes un avocat extraordinaire, Jérémy. Vous l'avez très bien défendu. j'ai une autre question à vous poser sur lui.
Allez-y.
Alors, ça nous ramène un petit peu à Trump. Vous savez qu'en septembre, il y a eu la visite d'État. Et ça, c'était à l'invitation de Charles III. C'est pas Trump qui a décidé d'aller faire bon. Pourquoi Charles III a-t-il jugé bon, 6 ans après, enfin oui, parce que c'était en 2018 ou 2019, pourquoi a-t-il jugé bon d'inviter de nouveau Trump pour une visite d'État?
Oui, c'était assez gênant, parce que c'est Starmer qui a livré la lettre en personne à la Maison Blanche, comme pour dire cette invitation vient de moi, mais en fait l'invitation vient du roi. Et je pense que le roi, évidemment le roi dans ces cas-là, le roi fait ce que veut le gouvernement. Encore une fois, son pouvoir est très limité. On a quand même senti que du point de vue de Starmer, ce serait de la diplomatie, un bon plan diplomatique d'inviter Trump à Windsor, à Buckingham Palace, etc. Parce que Trump, on sait que Trump, il aime ça. Mm-hmm. On sait aussi que Trump est assez fier de ses ancêtres écossais. Donc là, on peut l'amadouer un peu par là. Et je pense aussi que le roi lui-même veut montrer que la royauté joue un rôle Et pour lui, donc, les visites d'État, surtout avec les grandes puissances et les grands alliés, sont importants. Une autre entité qui est très importante, c'est le Commonwealth.
Ah, oui, encore. Oui, enfin, le Commonwealth a aussi ramené tout ce monde, tous ces immigrants en Grande-Bretagne. Moi, je ne suis pas fan absolu du Commonwealth, mais bon, c'est très important pour eux. Alors, comme je vois, le temps passe à toute allure et qu'il faut quand même qu'on garde un petit peu de temps pour parler du Parti conservateur quand même. Hein. Mais j'ai une dernière question avant, c'est toujours concernant Trump et le Royaume-Uni. Comme vous le savez, Jeremy, Trump veut intenter un procès et il réclame 10 milliards de dollars pour diffamation à la BBC. Et alors, moi, je lui donne complètement raison là, parce que la BBC a été coupable le jour même du 6 janvier 2021, ça va faire 5 ans au 21 janvier prochain là qui arrive. La BBC est quand même l'organe de presse qui a le premier, en quelque sorte, qui a bâti le narratif en éditant le discours de Trump, le faisant paraître exhortant les manifestations à une insurrection, alors que pas du tout, c'est tout le contraire. Trump leur disait de défiler dans le calme, et comme ils en avaient le droit constitutionnel, d'aller aux portes du Capitole, par leur simple présence, s'assurer que le déroulement de la certification des votes se passait bien, et c'est tout. Et la BBC est donc coupable en ayant tronqué des passages clés du discours de Trump, est donc coupable de ce narratif mensonger qui a été repris par toutes les chaînes de télévision européennes et les chaînes de gauche américaines. Donc, il y a véritablement matière, et c'est pour ça que ce qu'il demande est si lourd. Et contrairement à ce que j'en crois, c'est pas pour s'enrichir, il n'a pas besoin de ça, mais il le versera probablement à des causes. Alors, est-ce qu'il peut gagner? On ne sait pas, mais moi, je pense qu'il devrait, dans la foulée, il devrait aussi intenter des procès à Arte, TF1, France Info, BFM, LCI, dont la désinformation sur le président américain est un scandale permanent. Ça, c'est mon simple avis. Maintenant, question pour vous, Jeremy, est-ce que ce procès, surtout si Trump le gagne, est-ce que d'abord ça peut ruiner la BBC, surtout est-ce que ça peut faire exploser cet autre machin qu'est la BBC et qui est quand même un scandale aussi pour les Anglais qui n'ont pas la télévision, qui ne la regardent pas, mais qui sont tout de même obligés de payer. Moi, j'entends que du mal de la BBC depuis des années.
Oui.
Alors, question longue, mais réponse courte, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a une chance?
Il y a toujours une chance, mais c'est difficile parce qu'il s'agit, d'un documentaire diffusé avant les élections, l'élection présidentielle de 2024.
Mais ça avait été fait avant. Ça avait été fait au moment même où les événements pratiquement se passaient. Et ça a été
Il y a cette version qui est de 2024 et il y a une autre version qui est de 2022.
Oui.
Et qui était moins flagrant. Donc, comme ça n'a pas été diffusé aux États-Unis, l'argument de la BBC, c'est que ça n'a pas eu d'influence sur l'élection que Trump a de toute façon gagnée. Mais je crois que l'importance de ce procès est surtout symbolique.
Oui, bien sûr.
C'est pour montrer qu'on ne peut pas continuer à faire comme ça. Parce que la BBC a prétendu que le montage, c'était une erreur. Il est clair que ce montage faux était motivé
idéologiquement. Délibéré.
Voilà. Et notre grand problème, c'est que la BBC, ce n'est pas comme France Info ou Arte. C'est une vaste organisation par comparaison, qui a beaucoup de départements, de divisions, de sections, etc., etc., etc. C'est énorme. Et le problème n'est pas avec la tête de l'organisation, et c'est souvent le cas, c'est que plus bas dans la pyramide organisationnelle, la culture est complètement pourrie par l'idéologie. Donc, ce n'est pas en changeant le type qui est à la tête.
Ils ont déjà les deux responsables ont déjà démissionné.
Voilà, ça ne changera pas grand-chose.
Non, mais est-ce que 10 milliards de dollars sortir,
il y a toutes ces
pourrait
jeunes,
les déstabiliser.
Il y a toutes ces jeunes recrues qui sortent de l'université, qui ont imbibé toute la propagande wokiste. Ce sont elles qui sont à l'œuvre. Donc, il faut vraiment, d'une manière ou d'une autre, briser une partie de la pyramide. C'est ça. Et il se peut que le procès et tout ce qu'il révèle permettent de briser une partie de la structure. C'est ça l'important.
D'accord. Bah, écoutez, je ne souhaite tarder à maintenant. Je vois qu'il est 13h10. L'heure passe, comme vous le savez, beaucoup plus vite à Radio Courtoisie que partout ailleurs. Donc, il ne nous reste plus que 20 petites minutes, et même pas, puisque c'est en fait à 25 que ça s'arrête véritablement. Donc, Jérémy, il ne nous reste plus que, disons, un bon quart d'heure pour parler du Parti conservateur. Alors, ma question, c'était quo vadis, Parti conservateur. Aux dernières nouvelles, le parti était mort. Alors, ça, c'est Madame Nadine Dorries, qui est la dernière du Parti conservateur à avoir quitté les rangs pour rejoindre le groupe de Farage Reform UK. Ça, c'était en septembre 2025. Elle a eu un jugement très, très, très sévère contre votre parti, qui était aussi le sien, en disant qu'il avait fait bêtise sur bêtise et qu'il avait... Et moi, je suis d'accord avec elle là-dessus, que c'était un véritable coup de palais qui s'est produit plusieurs fois de suite. La première fois pour faire partir Liz Truss, une deuxième fois pour faire partir Boris Johnson. Et tout ça pour mettre à la place l'Indien Rishi Sunak, enfin d'origine indienne. Voilà. Et donc, elle critique également la culture de Westminster. Elle critique les MPs, c'est-à-dire les députés Tories qui sont engagés, paraît-il, scandale sexuel avec des jeunes internes gays, pratiquement des prostituées masculines. Bon, et elle enchaîne, le parti m'a laissé, donc je pars, moi, chez Farage. Et elle conclut... sur le fameux Online Safety Act, vous savez, la loi sur la censure que Starmer a fait passer, elle dit que c'est inadmissible, c'est sur tous les points, l'immigration, l'économie défaillante, la censure qui monte, c'est sur tous les points, l'establishment global mondialiste de Westminster, il faut arriver à s'en débarrasser, et elle conclut, le Conservative Party marche vers l'extinction. Voilà, après avoir perdu tout contact avec ses électeurs. Jérémy, je vous laisse dire la suite.
Mais Nadine Dorries n'est pas nécessairement de bons conseils.
Ah, c'est pas une folle quand même.
Elle était, elle aussi, c'était une élue conservatrice, oui. Elle ne l'est plus. Et elle faisait partie de ces gouvernements qui ont apparemment si mal gouverné.
Oui.
Donc, en même temps, on comprend bien que Reform est dans un moment de dynamisme extraordinaire.
Mm-hmm.
Et on attend le test des élections locales.
Mais il y a déjà lieu. Il y a déjà eu un succès ou deux, localement.
Oui, non, mais je parle des élections. Il y a le moment au mois de mai quand il y aura plein d'élections, y compris
viendrez nous en parler après.
Les pays dévolus. Et par exemple, les travaillistes dominent le pays de Galles depuis très longtemps, et il est possible qu'ils perdent face à Reform. C'est-à-dire, il est possible qu'il y ait un gouvernement dévolu, Reform. il faut le souhaiter,
oui.
Surtout pour les pauvres Gallois.
Oui.
Parce que, par exemple, il y a des zones au Pays de Galles où la vitesse est limitée à 20 000 de l'heure. Je ne sais pas si ça doit faire 25 kilomètres. Les gens sont, bon, c'est un petit détail, mais ça montre, les gens sont exaspérés. Les gens sont exaspérés.
Oui.
Donc, tout le monde peut être d'accord, le Parti conservateur a été écrasé lors des dernières élections. Réforme a toute l'énergie de son côté. En même temps, petit à petit, le parti remonte la pente. Et vous avez parlé de Robert Jenrick. C'est quelqu'un
Mais oui, moi, il me plaît bien, moi. Pourquoi vous ne le mettez pas à la véritable place où il devrait être, c'est-à-dire le véritable premier ministre de Londres?
Il n'a pas gagné l'élection.
Ah, il n'a pas gagné. On se demande, puisque ce sont des coups de palais. Je mets en doute, Jérémy, la bonne foi des cassis du Parti conservateur.
Il a bien fait, mais il n'a pas gagné. Il était le numéro 2.
Oui, mais c'est parce qu'ils étaient enragés à vouloir à tout prix mettre cette personne, qui est certainement très bien à beaucoup de points de vue, mais qui reste néanmoins un choix identitaire, je le maintiens, et qui n'a pas la brillance voulue pour un chef qui n'a pas le charisme d'un chef.
Je pense que les chefs se font. Elle est en train de s'affirmer. Ça se passe petit à petit plutôt bien, mais de toute façon, d'ici les prochaines élections, et il faut attendre 2029, toutes sortes de choses peuvent arriver. On peut d'ici là changer de leader, qui sait.
Il paraît qu'il y a un Britannique sur cinq qui serait désireux qu'on en termine par une guerre civile, mais c'est 1 sur 5, c'est pas 1 sur 2, donc il y a guère de chance que Starmer soit renversé. Vous pensez que les choses vont suivre leur cours?
Le problème pour Starmer, c'est de rester à sa place face à son propre parti. Parce que, comme vous le savez, il y a eu des tentatives pour le remplacer.
Oui.
Et il y a encore, à mon avis, des ministres et d'autres qui travaillent plus ou moins subrepticement à le faire tomber.
Alors, qu'est-ce qu'il lui reproche? Il n'est pas assez à gauche?
Mais comme il y a toutes les tendances possibles à gauche, il y aura toujours beaucoup de monde pour vous critiquer si vous êtes un leader gauchiste. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est connu pour être assez pour vaciller. C'est un peu une girouette. Donc à la fin, on ne plaît à personne.
Oui.
C'est un peu comme le « en même temps ». Au lieu de plaire un peu à tout le monde, on déplaît
à tout le monde.
Et c'est un peu la situation du pauvre Starmer. Il cherche une victoire quelque part. Il n'arrive pas à le faire. Donc, faut dire que ses jours sont comptés. Et vous avez parlé très à propos, Evelyne, de tous les remplacements de premiers ministres opéré par les conservateurs. Cela nous montre que quand un parti qui est au gouvernement remplace son leader, même si le leader n'était pas bon, après, ce qui se passe est toujours pire.
Ah, d'accord. C'est intéressant à savoir. Oui, mais moi, j'ai pas envie qu'on le remplace par un autre. Je veux que ce parti tombe.
Ah oui, mais... C'est ce que nous voulons tous, mais...
Je veux qu'il entraîne son parti dans sa chute.
Sur le papier, il faut encore attendre 3 ans et demi.
Oh là là,
donc,
c'est mortel.
Oui. Non, mais... oui, non, mais dans tout ce que vous dites, Evelyne, vous avez raison, la situation est très grave. Les problèmes du Royaume-Uni ne sont pas les mêmes exactement qu'en France, parce qu'en France, il y a ce problème du gouvernement qui est bloqué, qui n'arrive même pas à voter un budget.
Oui.
Tandis qu'au Royaume-Uni, on a un gouvernement qui a tous les pouvoirs, mais qui n'arrive pas à faire quoi que ce soit de positif.
Non, mais ce qui choque, vous voyez, Jérémy, c'est que, bon, la France est un pays communiste, ça, on le sait depuis longtemps, mais voir ça au Royaume-Uni, c'est particulièrement choquant. On n'a pas dans l'esprit...
Oui.
Des Anglais communistes, marxistes, ça va juste pas ensemble. C'est une absurdité. Chez nous, c'est devenu hélas la norme. mais au Royaume-Uni, ça restait une absurdité. Et voilà que Starmer lui réussit ce tour de force à faire de l'Angleterre un pays marxiste. C'est inimaginable. Donc, alors, vous avez un petit peu, vous espérez dans les prochaines élections, c'est ça?
Bon, il faut voir d'abord ce qui se passe au mois de mai.
Oui. L'élection locale, verra... c'est ça?
Oui. Mais aussi en Écosse, au Pays de Galles.
Oui.
Là, on verra quelle est la dynamique. Est-ce que Reform va continuer à monter? Est-ce que les conservateurs vont revenir un petit peu? Ce sera un grand test. Et surtout, on verra quel est le degré d'impopularité des travaillistes. À mon avis, il y aura un refus, un rejet très, très, très marqué du travaillisme. Et même, je dirais, comme vous l'avez dit, du marxisme à l'anglaise.
Et est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'espoir? Est-ce qu'il y a des tractations entre Reform et les conservateurs? Est-ce qu'enfin, ils vont se mettre d'accord, au moins pour ces élections de mai? Est-ce qu'ils vont passer des accords?
Vous parlez, Evelyne, de cette fameuse union des droites qu'on n'arrive pas encore à faire en France.
Ah, bah, je suis désolée. En 2019, Farage a fait le premier pas. Il s'est retiré.
Oui,
il a véritablement
vrai.
Fait un geste magnifique. Et voilà comment il a été remercié. Donc, ça serait temps maintenant de faire ça pour lui.
Il ne veut
vous,
pas.
Vous lui devez cela. Et vous le devez aussi au peuple anglais.
Il ne voudra pas recommencer de sitôt. Mais. Donc, en ce moment, et c'est tout naturel du point de vue stratégique, personne ne veut admettre une faiblesse.
Hein, oui.
Ça affaiblirait l'image d'un parti qui dirait « Oui, on est prêt à faire une alliance. » Mais
on me dit qu'il nous reste 5 minutes.
Voilà. Dernier mot. Au fur et à mesure que le moment de voter arrive, là, selon les sondages, peut-être que là, il y aura des tractations au dernier moment pour faire une sorte de front d'union nationale contre le travaillisme. C'est possible, ce n'est pas à exclure, mais on n'en parle pas tellement en ce moment, pour des raisons de stratégie et d'image.
Stratégique, voilà, tout à fait. Ben c'est une bonne chose. Bon, ben c'est très bien comme mot de la fin. Je vous laisse conclure. Il vous reste 2-3 minutes. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous aurais pas posée, à laquelle vous auriez aimé répondre?
En fait, vous avez très bien soulevé la question des forces spéciales.
Ah.
Et la manière dont le Royaume-Uni traite ses militaires et surtout ses ex-militaires. Là, on voit que Starmer... veut bien poursuivre avec des procès contre d'anciens militaires pour de soi-disant crimes de guerre. On continue à poursuivre des soldats de l'Irlande du Nord, des soldats qui sont... on les traite moins bien que les terroristes de l'IRA. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'on se dit, qui est-ce qui voudrait devenir soldat aujourd'hui? Qui voudrait servir son pays? Et Dieu sait si nous avons besoin de soldats en ce moment. Parce qu'on peut à peine rassembler quelques milliers de troupes.
Ça dépend complètement du chef, étant donné qu'aux États-Unis, on a le modèle parfait. On voit qu'après 10 mois de Trump, eh bien, il y a une recrudescence des inscriptions pour l'armée, pour la police, pour les pompiers, pour toutes les forces en fait de l'ordre. Eh bien, le modèle est tout trouvé. Il n'y a qu'à suivre l'exemple de Trump, mais c'est pas Starmer qui va le faire.
Si vous sortez un bon film de guerre qui montre les soldats dans des postures héroïques, vous recrutez énormément. Quand vous mettez en scène des procès contre d'anciens soldats, eh bien, vous découragez complètement les recrues. Et c'est ça la ruine.
Et c'est contre l'intérêt national de toute nation et c'est dramatique. Jérémy, stop, exactement. Je crois que c'est vraiment le moment de conclure, j'espère. Alors, chers auditeurs, vous n'avez pas pu poser de questions étant donné le format inhabituel de l'émission, mais vos questions seront les bienvenues et je tenterai d'y répondre soit la prochaine fois, soit à la prochaine visite de Jeremy Stubbs, qui sera, ben, j'imagine, après les élections locales anglaises.
Voilà, vous viendrez, Jeremy ?
On peut faire comme ça. J'espère que les conditions normales seront revenues d'ici là. Très, très bien. Chers auditeurs, merci beaucoup. Je vous dis à dans 4 semaines. Jeremy, merci 1000 fois.
Merci à vous et aux auditeurs.
Merci à tout le monde. Rebonne année et puis bonne galette. Vous avez le droit depuis hier de manger de la galette. Et donc, à très bientôt. Au revoir.
Vous venez d'entendre le Libre Journal du Nouveau Monde, dirigé par Evelyne Josselin, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 7 janvier 2026 de 12h à 13h30 et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.